Merci Seigneur pour les moments qu'on passe ensemble. J'aimerais continuer dans cette même pensée que nous avons depuis le début en lisant avec vous un passage du premier livre des rois au chapitre 19. On va lire du premier verset jusqu'au verset 18. C'est un passage qui nous raconte un épisode de la vie du prophète Élie que vous devez connaître pour la plupart. Donc on va le lire ensemble. Chapitre 19, voilà, à partir du verset 1er. Donc Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte, il y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul. » Et il cherche à m'enlever la vie. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel lui dit « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. » Voilà, on va s'arrêter là dans la lecture. Et donc, Élie, comme je disais, c'est un prophète qu'on connaît bien. Vous connaissez plein d'histoires de la vie d'Élie. J'aurais pu vous lire celle qui était juste avant, qui est presque quand même plus encourageante que celle-là. Surtout parce que Élie, c'est un prophète qui est un prophète de l'Ancien Testament qui a été très admiré, en particulier par le peuple d'Israël, hein, dans toute son histoire, et même par nous aussi. J'ai noté, c'est une des deux superstars de l'Ancien Testament qui a paru face à Jésus au moment de la transfiguration. Vous savez, quand Jésus s'entretenait avec Moïse et Élie, tous les deux qui représentaient la loi et les prophètes. Et c'est aussi celui à qui on a comparé Jean-Baptiste, pas seulement à cause des habits, hein, parce que les deux, ils avaient une tenue qui devait sortir un peu de l'ordinaire, là, en poil de chameau, ils vivaient dans le désert. Bon. Mais quand même, il y avait une comparaison qui était plus importante, surtout au niveau de leur ministère. Mais pourtant, Jacques, quand il nous parle d'Élie, il nous dit « C'était quand même un homme de la même nature que nous. » C'est un homme qui, du coup, avait des hauts, des bas, et qui, du jour au lendemain, pouvait passer d'un épisode qui ressemblait à une énorme victoire un moment, le lendemain, de désespoir le plus profond. Et il va avoir besoin vraiment de toute la patience et de l'aide, la pédagogie de Dieu pour arriver à se sortir de cette situation-là. Donc, le contexte là, de cette histoire, parce qu'on arrive un petit peu en plein milieu de plusieurs événements, c'est quelque chose qui se trouve en plein milieu du ministère d'Élie. Donc Élie qui a vécu des temps quand même très difficiles en tant que prophète parmi le peuple de Dieu, parce qu'en ce temps-là, c'était Akab qui était roi d'Israël. Akab qui nous est décrit dans la Bible comme un des pires rois qu'Israël ait connu. C'était le genre de roi qui ne respectait absolument pas Dieu, qui n'avait aucune morale et qui était prêt à faire intervenir des faux témoins pour accuser un homme, histoire de pouvoir le condamner à mort et de voler sa vigne. Et à ses côtés, on trouve Jézabel qui est l'image même de la reine idolâtre aujourd'hui. C'était à la base une princesse phénicienne qui avait épousé le roi Akab, et lorsqu'elle est arrivée en Israël pour retrouver le roi Akab et vivre avec lui, elle a emmené avec elle toutes ses coutumes, sa religion, toute l'idolâtrie et toutes les croyances païennes qui se trouvaient en Phénicie, là, dans le royaume de Tyr et de Sidon. Et notamment, elle a amené avec elle le culte des idoles comme Baal, comme Astarté. Et en cela, elle a entraîné tout le peuple dans l'idolâtrie avec elle. Elle a même persécuté et fait mourir les prophètes de l'Éternel et institué à leur place des centaines de prophètes de Baal et d'Astarté. Et ça allait tellement loin dans cette idolâtrie qu'aujourd'hui, lorsqu'on évoque le nom de Jézabel, c'est tout de suite pour parler de la reine séductrice, idolâtre. C'est vraiment le point le plus bas auquel on pourrait tomber spirituellement. Et donc, face à Akab et Jézabel, se trouve Élie. Dans le livre des Rois, on le voit apparaître deux chapitres avant, chapitre 17. Et il arrive en annonçant une sécheresse terrible qui va frapper le pays d'Israël là, pendant plusieurs années à cause justement de son idolâtrie. Et pendant que le peuple du coup se retrouve à souffrir de cette famine à cause de son roi, sa reine, Élie lui survit par la grâce de Dieu. D'abord au bord d'un torrent où c'est des corbeaux qui viennent le nourrir, et puis ensuite lorsque le torrent finit par tarir et il prend son chemin et là il arrive à Sarepta où c'est une pauvre veuve avec son fils qui l'accueille et puis qui accepte même de lui donner son dernier repas. Elle n'avait plus rien d'autre à manger. Elle allait cuire son dernier repas, son dernier gâteau là, et puis le manger avec son fils pour mourir. Puis quand Élie arrive et lui demande « mais sers-moi à manger », elle accepte de le lui donner. Et grâce à ça, son huile, sa farine vont se renouveler comme ça continuellement jusqu'à la fin de la famine. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir survivre avec son fils, mais aussi avec le prophète qu'elle héberge. Et cette même veuve, d'ailleurs, verra aussi son fils ressuscité par la prière d'Élie lorsque son fils va mourir. Donc Élie, c'est un homme dont le ministère prophétique il a eu une telle ampleur que même après son départ, qu'il ait été repris auprès de Dieu, le prophète Malachie, plus tard, a annoncé son retour, entre guillemets, d'une manière imagée. Dans Malachie, au chapitre 3 et au verset 23, le prophète annonce « Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. » Bien sûr, ce n'est pas le prophète Élie lui-même qui devait revenir. En fait, c'était une prophétie qui annonçait la venue de Jean-Baptiste. C'est Jésus qui l'a expliqué, notamment dans Matthieu au chapitre 11. Parce que lorsqu'il s'adresse à la foule qui allait voir Jean-Baptiste, il leur dit « Mais... » Donc c'est Matthieu chapitre 11 et à partir du verset 7. « Donc comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de tenues élégantes? Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. Car c'est celui à propos duquel il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour préparer le chemin. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violences en emparent. En effet, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien l'accepter, c'est lui, l'Élie, qui devait venir. Et comme je disais, en plus, Voilà, Élie, on le voit encore de nouveau apparaître un petit peu plus tard, lorsque Jésus est sur la montagne là, de la Transfiguration avec juste quelques disciples, et puis que les disciples voient apparaître Moïse et Élise. C'est au chapitre 17, toujours de l'évangile de Matthieu. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Bref, avec tout ce que je vous ai dit là, vous voyez bien qu'Élie, c'est un homme qui a eu un ministère formidable. C'est pas un ministère les plus simples, parce que, comme beaucoup de prophètes, c'était des temps où il a dû affronter quand même une certaine rébellion de la part du peuple, mais il a toujours été accompagné de cette puissance de Dieu d'une manière vraiment impressionnante. Il a été témoin et puis même acteur de miracles incroyables. Il a fait preuve d'une grande fidélité alors que le peuple s'éloignait de Dieu. Et le moment là, juste avant ce qu'on vient de lire, c'est le moment où il se retrouve sur le mont Carmel, face au peuple, avec les prophètes de Baal d'un côté, lui de l'autre, où chacun va invoquer son Dieu, et que Dieu envoie le feu là pour consumer le sacrifice d'Élie. C'est un peu comme une apothéose là dans le ministère d'Élie. Il a mis en garde le peuple par rapport à l'idolâtrie, il a poursuivi son message là pendant 3 ans, et puis là il arrive un moment où il invoque Dieu, le feu descend, tout le peuple d'Israël le voit, le peuple d'Israël tombe à genoux, dit c'est l'Éternel qui est Dieu, et puis se rend compte de son erreur, avoir suivi l'idolâtrie d'Akab et de Jézabel. Et derrière ça, Élie nous a même dit qu'il a mis à mort tous ces faux prophètes là, et il se met à prier, et enfin la pluie revient sur le pays d'Israël. Vous vous rappelez peut-être comment ça s'est passé, où il se met à genoux pour prier, puis il demande son serviteur, mais regarde, est-ce qu'il n'y a pas un indice là que la pluie arrive? Et puis plusieurs fois il le renvoie jusqu'à un moment, ah ça y est, il y a un petit nuage qui est apparu. Et alors à ce moment-là il dit, ça y est, la pluie arrive là, il faut courir, il faut foncer parce que ça va nous rattraper. Et là on se dit, mais là le prophète il a été justifié, il a été vraiment élevé devant tout le peuple, ça y est, il va pouvoir avoir la reconnaissance qu'il faut. Et puis derrière on arrive sur ce chapitre, la 19, où on a l'impression que c'est d'un seul coup la dégringolade. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce puissant prophète là, qui vient de mettre à mort 450 prophètes de Baal, après avoir invoqué comme ça le feu du ciel, il a vu le tomber, il a vu la pluie revenir, et puis aussitôt, il bascule dans le désespoir. Apparemment, on a envie de dire, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a juste une chose, c'est que Jézabel lui a fait une menace. Elle l'a menacé de mort. Bon, ok, c'est pas à prendre à la légère une menace comme ça, mais c'était pas nouveau pour Élie. Il le dit lui-même dans ce qu'on a lu, ça fait un moment que Akab et Jézabel font mourir tous les prophètes de Dieu et sa vie, elle était déjà menacée depuis un certain temps. Alors, pourquoi? Alors qu'il vient d'atteindre un sommet spirituel, on a envie de dire, il se retrouve aussitôt avec un tel découragement, un tel désespoir. Déjà, une première leçon que j'aimerais tirer de cette histoire avec vous, c'est que le fait de faire de grandes expériences spirituelles, ça ne nous met pas forcément à l'abri de la chute derrière. Paul d'ailleurs nous met en garde, hein, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, dans les versets 11 à 12, il dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. » Là, il parle de tous les récits de l'Ancien Testament. « Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Il y a de nombreuses chutes dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament qui ont suivi pourtant de grands succès. Regardez le peuple d'Israël, à peine sorti d'Égypte, là, délivré de Pharaon, ils commencent déjà à murmurer. À peine ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu toute l'armée égyptienne là, engloutie par la mer, alors que Dieu vient de leur ouvrir un passage de manière extraordinaire. Et tout de suite derrière, ils retombent à murmurer, à se rebeller, à tomber dans l'idolâtrie, à construire ce veau d'or là. Un peu plus tard, lorsqu'ils vont commencer la conquête du pays de Canaan, ils remportent une grande victoire à Jéricho, et aussitôt derrière, en essayant de prendre Haï, c'est de nouveau la défaite, parce qu'ils ont laissé le péché s'introduire dans le camp. Puis regardez dans le Nouveau Testament, l'histoire de Pierre, alors que Jésus va être arrêté, aussi bien il est capable là, d'attraper son épée, d'aller s'attaquer à un soldat et d'un coup d'épée. Et puis, quelques heures plus tard, alors que c'est une simple servante qui lui dit « Mais t'es pas un de ceux qui était avec Jésus, là ?» Tout de suite, il tombe dans les nids. « Non, non, je connais pas, surtout pas. » Comme quoi, il faut plus que des miracles pour vraiment nous fortifier. D'ailleurs, j'ai tendance à croire que c'est pas le but des miracles de nous fortifier. Dans la parole de Dieu, j'ai plus souvent lu que les miracles étaient surtout un signe que Dieu donnait, et notamment pour les inconvertis. Lorsqu'on vit des expériences aussi intenses que celles qu'a vécu Élie, ben c'est vrai que souvent nos sentiments là sont un peu à fleur de peau, les émotions elles sont un petit peu démultipliées, et puis ben, parfois on peut courir le risque justement de se laisser du coup guider par toutes ces émotions là. On vit quelque chose de tellement fort qu'on a envie de se laisser entraîner par tout ça, et le problème de nos émotions c'est qu'elles peuvent fluctuer très vite aussi. Et parfois alors qu'on vient de vivre quelque chose de très intense, ben le fait que derrière nos émotions retombent, ben ça peut aussi entraîner un découragement aussi rapide. Alors comment a réagi Élie, lui, face à ça, face à cette menace qui lui tombe dessus alors qu'il vient de remporter une grande victoire? Ben, déjà, il a commencé par se laisser impressionner par cette menace et puis se renfermer sur lui-même. Vous avez lu avec moi, il a commencé par s'isoler là en laissant son serviteur, et puis après lui il est parti tout seul dans le désert. Et j'ai envie de dire, qui a jamais fait cette expérience-là quand on traverse des moments difficiles où on se sent découragé, de parfois ben justement s'isoler, couper un peu les ponts avec tout le monde et puis commencer à s'apitoyer un petit peu sur son propre sort, alors que c'est dans les moments d'épreuve qu'on a le plus besoin d'être entouré. Et voilà, quand on traverse ce genre de sentiments, ce genre d'émotions, ben, parfois c'est malheureusement notre réflexe de nous couper des autres et puis d'entretenir cette solitude là qui nous finalement nous entraîne dans un cercle vicieux où on s'enfonce de plus en plus. Une autre erreur qu'a commis le prophète, c'est que il a laissé ses émotions déformer sa perception qu'il avait de la réalité, et il s'est menti à lui-même d'une certaine manière, ou du moins il s'est attaché à des choses qui n'étaient pas une perception réelle de la réalité. Lorsque Dieu lui demande de s'expliquer sur ce qu'il fait dans le désert, les deux fois où Dieu lui pose la question, il fait la même réponse et il dit « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Et je suis resté moi seul. » Et il cherche à m'enlever la vie. Pour Élie, il a fait tout ce qu'il fallait, il a servi Dieu fidèlement et il croit qu'il est le seul à être resté dans ce cas-là, qu'il n'y a plus personne d'autre en Israël qui aime Dieu. Ce qui est bizarre, c'est que déjà, il vient de voir tout le peuple d'Israël tomber à genoux là, et dire « Mais c'est l'Éternel qui est Dieu, donc comment est-ce qu'il peut dire « Il n'y a que moi qui suis resté ?» À la rigueur, on reviendrait un jour ou deux en arrière, avant qu'il ait fait cette expérience au Carmel. On pourrait dire « Oui, d'accord, il peut croire ça s'il voit que tout le monde est encore à suivre Baal et Astarté. » Mais là, il vient de voir que le peuple s'est rendu compte de son erreur. Et on voit là qu'il a une vision qui est très subjective de la réalité en fait. Son désespoir, son découragement, ça a influencé sa façon de voir le monde autour de lui, et il le voit d'une manière très pessimiste. C'est humain comme réaction, et même il n'y a pas que dans la Bible qu'on voit ça. Vous demandez à des psychologues, ils vous expliqueront très bien que quand on regarde le monde autour de nous, on a souvent tendance à avoir une vision qui est centrée sur nous-mêmes. Et ça fait que même d'ailleurs que souvent on surestime ce que nous on a fait et on sous-estime ce que les autres y font. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai un petit test pour vous que j'avais lu une fois. C'est, posez-vous la question dans votre couple, quel pourcentage chacun fait des tâches ménagères ? Sans vous consulter, chacun vous décide. Et après, vous additionnez les deux et vous allez voir si vous arrivez à rester en dessous de 100%. Parce que souvent, quand on pose la question à des couples, on se rend compte que le total, ça fait plus de 100%. Donc ça veut dire que les deux, quand ils travaillent ensemble, ils arrivent à faire plus que ce qu'il y a à faire. Mais là, Élie, c'est un peu ça. Il voit, il est le seul à avoir tout fait, et il n'y a plus personne autour de lui qui sert Dieu. Mais c'est pas vrai. En fait, là, c'est l'isolement dans lequel il s'est enfermé, ça l'empêche de voir quoi que ce soit qui puisse contredire ses pensées pessimistes. Lui, il s'est enfermé dans cette idée-là, ça y est, je suis tout seul, Jézabel veut me faire mourir, là, ça y est, ça a dépassé un cap, on ne pourra plus revenir en arrière, j'aurai plus de soutien nulle part. Mais en fait, lorsque Dieu lui répond, on voit qu'il se trompe dans la perception qu'il a des choses. Dieu lui dit, je vais laisser 7000 hommes, c'est tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Il est en train de lui dire, il y a au moins 7000 hommes dans le peuple d'Israël là qui sont encore fidèles. Tu n'es pas tout seul. Toi, tu t'es imaginé ça parce que tu t'es laissé décourager. Mais ta vision de la réalité, elle est faussée. Et lorsqu'on arrive là, heureusement, on a justement l'intervention de Dieu. Là, on a Élie qui commence à discuter avec Dieu et on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer pour lui. Vous avez vu avec moi, au début, il y a un ange qui est venu le réveiller, alors que lui, voilà, il avait sombré dans la dépression au point le plus bas, il en est même avec des pensées suicidaires. Hein. Il dit à Dieu, mais reprends-moi, j'ai plus rien à faire là. Je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Il s'est allongé sous un genêt. Ça me rappelle un peu l'histoire aussi d'Agar avec son fils. Là, allez, on s'allonge sous un arbre en plein milieu du désert et puis on attend la mort. C'est ce qu'a fait Élie. Mais au lieu de l'écouter, Dieu a envoyé un ange qui vient le réveiller et qui lui apporte de quoi reprendre des forces. Il a de quoi manger, de quoi boire. Et puis comme ça ne suffit pas la première fois, il y en a une deuxième fois, l'ange revient. Et je veux dire, ce n'est pas n'importe quel ange. Vous avez l'expression, c'est l'ange de l'Éternel. Et souvent dans l'Ancien Testament, lorsque vous trouvez cette expression-là, l'ange de l'Éternel, c'est pour dire que c'est quasiment Dieu lui-même qui est venu sous une forme qui ne soit pas trop dure à supporter pour nous. Hein, vous le savez, dans l'Ancien Testament, Dieu l'avait dit notamment à Moïse, mais l'homme ne peut pas me voir dans toute ma gloire et puis survivre. Mais il y a des fois où Dieu s'est approché quand même sous une forme comme ça. On a l'ange de l'Éternel qui est venu voir Abraham, on a l'ange de l'Éternel qui est venu aussi à la rencontre de Josué lorsqu'il allait rentrer dans la conquête du pays. Il est venu voir Gédéon et puis même ses parents aussi. Enfin, les parents de Samson, pardon, je veux dire. Et la Bible nous donne toutes ces occasions-là où on voit que Dieu, d'une certaine manière, s'est approché d'hommes, de femmes qu'il a voulu encourager. Et il y a un autre endroit où Dieu s'est approché encore plus, c'est dans l'évangile de Jean. Au chapitre 1 de l'évangile de Jean, il nous est parlé de comment Dieu s'est approché de nous. Et vous le savez, comment Dieu s'est approché de nous, c'est au travers de Jésus-Christ. Dans Jean, au chapitre 1, au verset 1, il dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et au verset 14, un peu plus loin, « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » L'ange de l'Éternel, là, il s'est approché d'Élie pour le fortifier. Et moi, quand je dis ça, ça me rappelle comment Dieu s'est approché de nous aussi au travers de Jésus. Jésus, l'Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Et même, j'ai envie de prolonger le parallèle un peu plus loin, parce que derrière, vous voyez que quand Dieu réveille Élie, il lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop court pour toi. » Élie, il avait besoin de reprendre des forces. Là. Vu l'état dans lequel il se trouvait, le découragement, le désespoir qu'il avait, toute la fatigue aussi probablement physique, parce que tout ce qu'il vient de faire, c'était pas rien. Hein. Ça devait être éprouvant aussi pour son corps. On le voit même courir devant le char d'Akab alors que la pluie arrive. Et puis à la fin, voilà, tout s'accumulait. Ça a dû contribuer à cette dégringolade. Mais Dieu lui dit, vas-y, t'as besoin de reprendre des forces. Et c'est pareil pour nous. Lorsqu'on traverse un temps d'épreuve, de découragement, de déprime, ben, on doit commencer par reprendre des forces spirituelles pour continuer. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est de nourrir notre âme comme Dieu a nourri Élie. Et la meilleure nourriture, c'est celle qui vient de Dieu. Il n'y a qu'à voir Élie avec un gâteau, une cruche d'eau, 40 jours de rando. Ceux qui ont fait les randos avec nous, vous pouvez comparer. Hein, Mais pour notre âme, c'est pareil. Hein. Jésus a utilisé cette parole de Deutéronome chapitre 8, verset 3, lorsqu'il résistait au diable en lui disant « Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et cette nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour reprendre des forces, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, le pain de vie. Et nous devons nous rassasier vraiment de chaque mot qui vient de la bouche de Dieu pour arriver, nous aussi, à continuer et à reprendre notre marche. La suite du texte, elle nous montre aussi que Dieu avait aussi en tête de faire vivre à Élie une autre expérience. Parce qu'après ce repas là, super énergétique qu'il a fait marcher pendant 40 jours, il arrive où ? Il arrive à Horeb, la montagne de Dieu. Horeb, ça signifie le désert. Mais l'auteur là, du texte, il préfère l'appeler la montagne de Dieu. Pourquoi ? Parce que la montagne de Dieu, ben, c'est l'endroit où Dieu a parlé à Moïse dans le buisson ardent. C'est là où il l'a appelé à son service. C'est aussi là, un peu plus tard, que Moïse a frappé le rocher et qu'il y a de l'eau vive qui est sortie là, du rocher pour abreuver tout le peuple qui était en train de mourir de soif là, au milieu du désert. Et toutes ces images là, du rocher, encore une fois, lorsqu'on lit le Nouveau Testament, elle nous rappelle que ce rocher qui a été frappé était une image de Christ. D'ailleurs, Christ lui-même, lorsqu'il s'adresse à la Samaritaine, parle avec elle de l'eau vive qu'il pourra donner. Et un peu plus loin, au chapitre 7 de l'évangile de Jean, au verset 37 et 38, alors qu'il est en train de s'adresser au peuple, là, il leur dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et lorsqu'Élie est arrivé à cette montagne de l'Éternel, en plein désert, Dieu a enfin pu avoir un vrai entretien avec lui. Là. Les premières fois, lorsque l'ange est venu, il a juste dit « Allez, mange, bois, reprends des forces. » Et puis après, on discutera plus tard. Là, lorsqu'il arrive à la montagne, à Horeb, qu'il est dans cette grotte, Dieu commence à lui parler. Et Dieu décide de lui apprendre quelque chose en se révélant un peu plus à lui. Vous avez vu tout ce qui se passe à l'extérieur de la grotte avant qu'Élie ne sorte ? Il y a le vent, le tremblement de terre, le feu. Toute la puissance de Dieu là, qui est en train de se déchaîner à l'extérieur. Et pourtant, Élie se rend compte que toute cette démonstration de puissance, là, elle n'est rien. Dieu n'est pas au milieu de tout ça. En fait, Dieu il arrive après tout ça, dans un murmure doux et léger. Et alors qu'Élie, là, il avait, semble-t-il, touché le fond, Dieu vient pas devant lui pour lui montrer toute sa puissance et lui montrer tout ce qu'il est capable de faire. Ça, il l'a déjà expérimenté à de nombreuses reprises. Et on l'a dit, juste avant tout cet épisode-là, c'est ce qu'il a vu. Non, là, ce qu'il a besoin, c'est de quelque chose de nouveau. C'est de découvrir ce côté doux et intime avec Dieu. De Dieu qui veut s'approcher de lui et qui veut passer un moment vraiment de communion très proche, très, très intime. Élie, là, il avait besoin de redécouvrir ce que c'est que de se tenir dans le calme, dans la présence de Dieu. Ésaïe le dit aussi dans son livre au chapitre 30 au verset 15, « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Dieu veut qu'on soit conscient de sa puissance et de son autorité, c'est sûr. Il veut que nous réalisions qu'on peut lui faire confiance et qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter. Il est capable de faire tout ce qu'il y a à faire. Mais il veut aussi et surtout nous attirer au plus près de lui. Il veut nous avoir continuellement auprès de lui. Il veut avoir une relation intime avec nous. Il veut que nous le connaissions non seulement comme le Dieu Tout-Puissant, mais aussi comme notre Père, notre ami, notre consolateur, notre confident. Et parfois, on a besoin, comme Élie, de passer par le désert pour redécouvrir ça. On a besoin de se retrouver là dans ce silence qui peut être angoissant, pour enfin pouvoir tendre l'oreille et reconnaître cette voix là, douce, légère de Dieu. La conclusion de cette histoire, là, c'est que finalement, Élie, après, ben, il a pu reprendre sa route et son service pour Dieu. Vous avez vu, il a été oindre un nouveau roi de Syrie, un nouveau roi en Israël, il a formé un nouveau prophète pour prendre la suite après lui. Et ce qu'on peut remarquer au passage, d'ailleurs, c'est que si Dieu l'a encouragé à reprendre des forces en le nourrissant et en lui parlant au début, on ne le voit pas dire à Élie, bon, avec tout ce que tu as vécu, prends un petit temps là, prends une petite année sabbatique, tu vas te reposer, tu vas prendre soin de toi, t'occuper de toi, et puis après, ben, quand tu seras de nouveau en forme, on va repartir. Non, en fait, Dieu ne lui a pas demandé de mettre son ministère entre parenthèses. Dieu est intervenu sur le moment pour l'aider à repartir et continuer tout de suite ce qu'il avait déjà été appelé à faire. Pourquoi je dis ça ? Parce que parfois, on entend dans certaines églises un discours qui est un petit peu différent, qui est parfois plus centré sur le fait de prendre soin de soi, il faut s'occuper de soi, il faut développer son potentiel, il ne faut surtout pas trop en faire, hein, parce que sinon, si on se laisse tout de suite écraser, après on pourra... Ok, je suis pas en train de dire qu'il faut tomber dans le déséquilibre et s'acharner au point d'y laisser sa santé, mais quand même. Le message de Dieu, en général, ça a toujours été de le mettre lui à la première place, pas nous. Si j'ai besoin de reprendre des forces, c'est pas en m'isolant tout seul et en maintenant à l'écart que je reprends des forces. C'est en passant du temps dans la présence de Dieu, comme on vient de le voir avec Élie. C'est pas du tout le même message que celui de Jésus qui disait dans Luc au chapitre 14, versets 26 et 27, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Et d'ailleurs, dans un autre verset, dans Matthieu au chapitre 11, au verset 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » C'est bien, nous on aime bien lire ça, « Je vous donnerai du repos. » Sauf que le verset suivant, il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Vous qui êtes fatigués, chargés, venez, je vais vous donner un fardeau, ça va vous aider. Ben, » c'est ça qu'il dit, hein. « Ceux qui êtes fatigués, chargés, venez. » Prenez mon joug. Un joug, bon, même si on n'en voit plus beaucoup autour de nous aujourd'hui, il y a des tracteurs, il n'y a plus besoin de tirer les trucs par des bœufs, mais c'était quand même le truc qui leur pesait sur le cou et qui permettait aux bœufs de tirer la charrue, de tirer les différents outils agricoles de l'époque. Donc, ça semble un petit peu contradictoire là, que Jésus dise à ceux qui sont fatigués de venir se charger de quelque chose. Mais ça n'est pas tellement au vu de ce qu'on vient de lire. En fait, ce qui redonne des forces, ce n'est pas le fait de s'être isolé, c'est le fait de se mettre au service de Dieu. Parce que lorsqu'on se met au service de Dieu, Dieu nous renouvelle. Jésus est en train de dire qu'en fait, il nous accorde son repos lorsqu'on accepte de se charger de son joug. Si on peut croire parfois que de s'isoler, de renoncer à toutes les tâches qu'on peut avoir, peut-être même de renoncer à l'église pendant un temps, ça va nous aider à nous renouveler, à retrouver des forces. Moi, je pense que ce n'est pas ce que Dieu nous dit, au contraire. Lorsqu'on fait ces choses-là, on va se priver encore plus de la grâce de Dieu. Et finalement, on risque, comme Élie, de tomber dans un cercle vicieux qui va nous faire dégringoler de plus en plus. Dans le psaume 84, lorsque le psalmiste parle de ceux qui renouvellent leur force pendant la marche, les deux sont ensemble, ils renouvellent leur force dans la marche. C'est parce qu'ils sont encore en train de marcher à la suite de Dieu, et si vous lisez tout le chapitre, vous voyez, c'est ceux qui s'attachent à Dieu, qui cherchent Dieu, et donc qui continuent dans cette marche, qui renouvellent leur force. Alors, si j'ai eu ce message à cœur, et j'ai voulu le partager avec vous ce matin, c'est pas pour accuser ou juger qui que ce soit dans l'Église, hein, parce que moi, le premier... À chaque fois que je lis et que j'étudie ces genres de choses, je suis repris en moi-même sur le fait que moi aussi j'ai besoin d'aller plus loin dans le sacrifice que Dieu attend de ma part. Si comme moi vous vous sentez interpellé lorsque Dieu nous dit ça, ben, c'est à lui qu'il faut s'adresser pour lui dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de m'apprendre au travers de tout ça? Comment est-ce que tu veux me renouveler? Comment est-ce que tu veux m'aider à aller plus loin ?» Parce que c'est normal que lorsqu'on est au creux de la vague, là, comme Élie, on le réponde comme lui, de dire « Mais Seigneur, tu vois bien que là, je ne peux plus rien faire. Là, c'est désespéré, il n'y a plus rien à faire. » Et même parfois, on prie comme Élie, « Mais reprends-moi, là, ça y est, j'en peux plus. » Mais Dieu nous dit non. Le découragement, là, il peut être dû à toutes sortes de choses, et notamment, comme Élie, peut-être que notre vision a été déformée et qu'on s'est laissé convaincre par un peu les mensonges de l'ennemi qui essaie de nous faire croire que on ne pourra pas s'en sortir. Mais Dieu, lui, veut nous dire que c'est lorsque nous sommes faibles que lui peut montrer sa puissance. C'est lorsque nous sommes faibles qu'il peut nous renouveler. Si un homme du même calibre qu'Élie a pu passer par des temps de découragement comme cela, je pense qu'aucun d'entre nous n'est à l'abri de la même expérience. Si un homme qui avait vu autant de choses qu'Élie a pu céder à ces tendances négatives là qui l'ont fait sombrer dans la dépression de cette manière-là, alors à combien plus forte raison nous aussi nous devons nous méfier des attaques de l'ennemi qui pourraient nous entraîner sur la même voie. Mais si nous choisissons de chercher en Dieu les forces qui nous manquent, alors nous allons pouvoir retrouver un ministère florissant. Et quand je dis un ministère, je ne parle pas que de ceux qui sont amenés à prêcher ou à être mis en avant. Toutes les tâches que Dieu nous donne, c'est notre ministère. Le ministère au sens biblique, c'est le service qu'on fait pour Dieu. Même le ménage, c'est un ministère. Alors, quand on regarde le reste du ministère d'Élie, justement derrière, on voit qu'il a encore vu de nombreuses manifestations de la puissance de Dieu. C'est lui qui invoquera à d'autres reprises le feu du ciel, mais alors là, ce n'était pas sur un sacrifice, c'était sur des soldats qui étaient venus l'arrêter. Et ça s'est mal terminé pour eux. C'est à ça que font allusion les disciples là, quand ils disent à Jésus, « Mais est-ce que tu veux qu'on fasse comme Élie? On va invoquer le feu du ciel sur tous ceux qui ne nous écoutent pas là. » Et Jésus a été obligé de les calmer. Il a dit, « Non, c'est pas le temps pour ça. » Élie, c'est derrière et c'est celui qui a traversé le Jourdain à sec. Il a ouvert le Jourdain là, en le frappant avec son manteau. C'est celui qui a été enlevé dans les chars de feu sous les yeux d'Élisée. Donc le reste du ministère d'Élie, il a été tout aussi glorieux que le début. Mais voilà, il a fallu que Dieu le renouvelle à un moment précis. Même s'il a vécu des choses extraordinaires autant au début qu'à la fin, il y a eu ces moments du creux de la vague là où Dieu a dû intervenir pour l'aider à retrouver des forces et pour refaire de lui ce prophète dont le peuple d'Israël va se souvenir pendant des siècles. Alors prenons conscience nous aussi que lorsqu'on est dans le désert comme ça, il y a un moment où Dieu va nous en sortir et que la sortie du désert, c'est le point de départ souvent de nouveaux projets que Dieu a pour nous. On le sait, Dieu a un plan en réserve pour nous formidable. On aime bien se le répéter, même si parfois on a du mal à voir comment c'est possible. Mais voilà, on ne pourra pas rentrer dans ce plan-là sans passer parfois par l'expérience du désert où Dieu va pouvoir nous former, où Dieu va pouvoir nous apprendre certaines choses. Alors, ne renonçons pas, ne baissons pas les bras lorsque nous sommes dans le désert, mais au contraire, levons les yeux vers Dieu, parce que c'est de lui que viendra notre salut. C'est ce même Dieu qui a relevé Élie, qui pourra aussi nous fortifier pour nous aider à poursuivre l'œuvre pour laquelle il nous a appelés. Et au vu des dons spirituels qu'on a eus ce matin, des chants qu'on a eus ce matin, je suis sûr qu'il y en a certains dans l'église ce matin qui avaient besoin d'entendre ce message, d'être encouragés par Dieu, de savoir que peut-être, effectivement, en ce moment, c'est le désert. En ce moment, c'est le désespoir. Peut-être même que il n'y a pas si longtemps, tu étais sur la montagne, tu étais en train de glorifier Dieu, et puis tu ne comprends pas comment tu as pu tomber aussi bas, aussi vite. Mais j'ai envie de vous dire que peu importe la situation dans laquelle vous êtes, peu importe si vous êtes tombé au plus bas, Dieu est toujours là. La main de Dieu est toujours là pour vous relever. Et ce qu'il attend, c'est que vous commenciez par poser les regards sur lui, par vous nourrir de lui, par boire cette eau vive qu'il veut nous communiquer. Et en faisant cela, alors Dieu pourra renouveler nos forces. Dieu pourra nous aider à gravir là les marches l'une après l'autre pour arriver à sortir du trou et puis arriver à retrouver de nouveau cette puissance dans notre vie, cette puissance du Saint-Esprit. Alors que Dieu nous aide vraiment à avoir cette vision-là et à accepter que le désert, ce n'est pas la fin. Le désert, c'est un moment difficile à passer peut-être, mais derrière, il y a encore plus grand. Et il y a la grâce de Dieu pour nous aider à en sortir. Amen. Seigneur, je te bénis pour ce que tu nous communiques au travers de ta parole. C'est vrai que la vie n'est pas toujours facile. C'est vrai que les épreuves que l'on traverse peuvent nous détruire parfois. C'est vrai qu'à certains moments, nous perdons tout espoir et nous pouvons, comme Élie, nous laisser engloutir par le découragement et par ces pensées négatives, Seigneur mon Dieu. Mais je veux te prier ce matin pour tous ceux d'entre nous qui sont dans ces temps difficiles, tous ceux d'entre nous qui sont dans cette souffrance ce matin, Seigneur. Tu connais leur cœur, tu connais leurs besoins et tu sais, Seigneur, que toi, tu peux les relever. Ô Seigneur, montre-leur que tu es encore celui qui fortifie, celui qui soutient, celui qui relève, celui qui guérit, Seigneur mon Dieu. Montre à chacun d'entre nous ta puissance dans nos vies, non pas comme une démonstration qui va impressionner les autres, mais simplement cette puissance qui agit dans l'intimité de notre relation avec toi pour renouveler nos cœurs, renouveler nos forces, renouveler nos esprits, Seigneur mon Dieu. Oui, envoie ton esprit sur ton église, Seigneur mon Dieu. Relève tous ceux qui sont abattus, Seigneur, et manifeste ta gloire. Amen.